Chapitre 9. Melchizedek. Lottie compléta le trio. Elle était bien petite et ne comprenait guère le mot adversité, et encore moins toutes les épreuves subies par sa petite maman adoptive. Elle avait bien entendu murmurer qu'il était survenu d'étranges bouleversements dans la vie de Sarah. Mais elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi celle-ci ne paraissait plus la même, pourquoi elle portait une vieille robe noire et ne venait plus dans la salle d'études que pour enseigner au lieu de s'asseoir à la place d'honneur et d'étudier elle-même ses leçons. Les petites avaient beaucoup bavardé entre elles, quand elles s'étaient aperçues que Sarah n'habitait plus le petit appartement où Émilie avait si longtemps trôné avec tant de grâce. Ce qui troublait le plus Lottie, c'était que Sarah répondait à peine quand on lui posait des questions. À 7 ans, on a besoin d'explications très détaillées pour comprendre des événements aussi mystérieux. Êtes-vous devenu très pauvre ? Lui demanda-t-elle en confidence le matin où Sarah donna sa première leçon de français.
Aussi pauvre qu'une mendiante ? Je ne le veux pas.
Et elle glissa sa menotte potelée dans la main fine de Sarah, tout en ouvrant de grands yeux embués de larmes. Sarah la consola bien vite.
Les mendiants n'ont pas d'habitation, et moi je demeure dans une maison, dit-elle courageusement.
Et où couchez-vous ? Insista Lottie.
La nouvelle élève dort dans votre chambre, mais elle n'est plus jolie.
Je couche dans une autre chambre, dit Sarah.
Est-elle agréable ? Demanda Lottie.
Je vais aller la voir.
Chut, taisez-vous, dit Sarah. Miss Minchin nous regarde, et elle se fâcherait contre moi si je vous laissais bavarder.
La pauvre Sarah s'était déjà aperçue qu'elle était rendue responsable de tout ce qui allait de travers. Si les élèves n'étaient pas attentives à la leçon, si elles étaient dissipées, c'était à elle qu'on s'en prenait. Mais Lottie était une petite personne décidée. Puisque Sarah ne voulait pas lui dire où elle couchait, elle le découvrirait bien toute seule. Elle en parla avec ses petites compagnes, rôda autour des plus grandes pour saisir des bribes de leur conversation. C'est ainsi qu'elle s'embarqua, vers la fin d'une certaine après-midi, pour un voyage de découverte. Grimpant des escaliers, dont elle ignorait même l'existence, elle atteignit les mansardes et trouva 2 portes contiguës. L'une d'elles était ouverte, et Lottie aperçut sa bien-aimée Sarah qui, debout sur une vieille table, regardait par la fenêtre.
« Sarah ! » cria-t-elle. « Maman Sarah !»
Elle était un peu ahurie. La mansarde était si nue, si laide, et paraissait si éloignée du reste du monde. Il lui semblait que ses petites jambes avaient gravi des centaines de marches. Au son de sa voix, Sarah se retourna, et ce fut à son tour d'être ahurie. Qu'allait-il se passer maintenant ?
Si Lottie se mettait à pleurer, et si quelqu'un l'entendait, elles seraient perdues toutes les deux.
Sautant à bas de la table, elle courut vers l'enfant.
« Ne pleurez pas, ne faites pas de bruit surtout, » implora-t-elle. « Je serai encore grondée. Et je l'ai été toute la journée. Ce n'est pas une chambre si vilaine, Lottie. »«
Vraiment ?» murmura la petite. Et elle se mordit les lèvres en regardant autour d'elle. Bien qu'elle fût une enfant gâtée, elle aimait assez Sarah pour faire un effort et se dominer pour l'amour d'elle. Et puis, après tout, il était bien possible que n'importe quel endroit habité par Sarah pût être joli.
Pourquoi n'est-elle pas vilaine ?
Dit-elle bas encore. Sarah la serra dans ses bras et essaya de rire. Il y avait quelque chose de réconfortant à tenir ce gros bébé contre elle. La journée avait été si dure, et c'était avec des yeux brûlés de larmes qu'elle venait de regarder par la fenêtre.
« On peut voir d'ici toutes sortes de choses que l'on ne peut pas voir d'en bas, » répondit-elle.
« Quelles sortes de choses ? » demanda Lottie avec la curiosité que Sarah savait toujours éveiller, même chez les grandes élèves.
« Des cheminées, tout près de nous, avec la fumée s'élevant en nuages qui s'évanouissent dans le ciel, et des moineaux qui sautillent et bavardent entre eux, comme de vraies personnes, et d'autres lucarnes où des têtes apparaissent tout à coup. On peut s'amuser à deviner à qui ces têtes appartiennent. On se sent si haut, comme dans un autre monde.
« Oh, laissez-moi voir tout cela !» cria Lottie.
Sarah la hissa, et toutes les deux, debout sur la vieille table,
regardèrent par la lucarne. Ceux qui n'ont jamais joui de ce spectacle ne peuvent s'imaginer quel monde différent apparut à leurs yeux. Les ardoises s'étendaient de part et d'autre et descendaient en pente vers les gouttières. Les moineaux, se sentant là chez eux, gazouillaient et sautillaient sans crainte. Deux d'entre eux, perchés sur la cheminée la plus voisine, se querellaient furieusement à coups de bec. La lucarne d'à côté restait close, la maison étant inhabitée.
« Je voudrais bien que cette mansarde fût occupée par une autre petite fille, » observa Sarah. « La lucarne est si voisine de la mienne que nous pourrions nous parler et nous faire des visites par le toit, à condition de n'avoir pas peur de tomber. »
Le ciel semblait tellement plus proche que lorsqu'on le regardait de la rue, Loti était enchanté. De là, à travers des cheminées, tout ce qui se passait dans le vaste monde au-dessous semblait irréel. C'est à peine si on croyait encore à l'existence de Miss Minchin, de Miss Amelia ou de la salle d'études. Le bruit des voitures dans la rue, très assourdi, semblait appartenir à une autre planète.
« Oh, Sarah !» s'écria Loti, se blottissant entre les bras qui la protégeaient. « J'aime cette mansarde, je l'aime beaucoup. C'est plus joli qu'en bas. » « Regardez ce moineau !» chuchota Sarah. « Je regrette de ne pas avoir quelques miettes à lui jeter. »«
Moi j'en ai !» dit Loti, avec un petit cri de joie, et elle tira de sa poche un bout de gâteau. Quand elles en jetèrent quelques morceaux, le moineau effrayé s'envola et se percha sur une cheminée voisine. Il n'était évidemment pas habitué à trouver des amis parmi les habitants des mansardes, et cette manne qui lui tombait du ciel l'alarmait. Mais, rassuré par Loti, qui restait immobile, et par Sarah qui sifflotait très doucement, imitant à s'y méprendre son pépiement, il se rassura vite, pencha sa petite tête de côté et, du haut de son perchoir, regarda les miettes de gâteau avec des yeux brillants de convoitise. Loti avait bien du mal à rester tranquille.
« Viendra-t-il ? » murmura-t-elle. « Je crois que oui, mais il réfléchit, » répondit tout bas Sarah. « Le voici qui se décide. »
S'envolant de la cheminée, le moineau, en effet, s'approchait des miettes par de petits bonds. Mais il s'arrêta à quelques centimètres, penchant de nouveau sa petite tête de côté, semblant se demander si Sarah et Loti n'étaient pas de gros chats prêts à sauter sur lui. Enfin son cœur de moineau se rassura, et, s'approchant de plus en plus près, il s'élança sur la plus grosse des miettes, la saisit, rapide comme l'éclair, et l'emporta sur sa cheminée.
« Maintenant il a compris, » dit Sarah, « et il reviendra manger les autres miettes. »
Il amena même un ami, qui amena un cousin, et, à eux trois, ils se régalèrent, tout en gazouillant, bavardant et sautillant. De temps en temps, ils s'arrêtaient, pour pencher leur petite tête de côté et examiner Loti et Sarah. Loti était tellement enchantée qu'elle oublia complètement la mauvaise impression que lui avait produite, au premier abord, la mansarde. Mieux encore, une fois descendue de la table et ramenée, pour ainsi dire sur la terre, Sarah montra à Loti beaucoup de jolies choses dont elle-même n'avait pas encore soupçonné l'existence.
« Ma chambre est si petite et si haut perché qu'on dirait un nid dans un arbre. Ce plafond mansardé est-il amusant? C'est à peine si vous pouvez vous tenir debout à l'une de ses extrémités, et quand le jour paraît, je peux, de mon lit, voir le ciel à travers ma lucarne. Il se découpe en un carré de lumière, et au moment où le ciel doit apparaître, de petits nuages roses flottent dans le ciel, si proches qu'il me semble que je pourrais les toucher. S'il pleut, les gouttes de pluie heurtent à petits coups le carreau, semblant me dire de gentilles choses. Et la nuit, quand il y a des étoiles, j'essaye de compter celles qui apparaissent dans ce morceau de ciel. Il y en a tant. Et dans ce coin, regardez cette petite grille rouillée. Si elle était nettoyée et qu'un bon feu y brillât, ne pensez-vous pas que ce serait charmant ? Vous voyez bien que c'est une belle petite chambre. » Elle marchait autour de la pièce, tenant Loti par la main et faisant des gestes pour en faire valoir tous les avantages qu'elle se forçait elle-même à voir. Loti les voyait réellement, car elle croyait toujours à la réalité de ce que Sarah imaginait.
« Je vois un épais tapis bleu des Indes, recouvrant le sol, » continua Sarah, « et, dans ce coin, un petit canapé avec de jolis coussins pour s'y pelotonner. » Au-dessus, des étagères, avec des livres, qu'on peut atteindre facilement. Je vois encore une peau de tigre devant le foyer, des tentures au mur et des tableaux.
Ils sont petits, mais jolis. Sur la table, une lampe, avec un abat-jour rose, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour prendre le thé. Une petite bouilloire ventrue, devant le feu, dont l'eau chante doucement. Le lit est doux et recouvert d'un édredon de soie. Tout cela concourt à rendre la chambre ravissante. Peut-être pourrons-nous apprivoiser les moineaux jusqu'à en faire des amis, qui viendront donner des coups de bec à la fenêtre et demander d'entrer. « Oh, Sarah !» s'écria Loti. « Je voudrais bien habiter ici. » Quand Sarah eut réussi à faire partir Loti et l'eut accompagnée un bout de chemin, elle resta debout, au milieu de la chambre, regardant autour d'elle. Le charme était rompu. Le lit était dur et recouvert de son affreux couvre-pied. Le plâtre s'écaillait sur le mur. Le plancher était nu et froid. La grille était brisée et rouillée. Et, seul siège de la chambre, le tabouret bancal se penchait sur son pied malade. Elle s'assit dessus, laissant tomber sa tête entre ses mains. Le simple fait que Loti était venue et qu'elle était repartie donnait à toute une apparence plus triste. Peut-être pour la même raison qui fait qu'aux prisonniers, sa prison paraît plus sombre encore après le départ de visiteurs. « C'est un endroit bien triste, se dit-elle, et parfois le plus triste du monde. » À ce moment, un petit bruit attira son attention. Elle leva la tête et, si elle avait été peureuse, elle eût quitté sa place en grande hâte. Un gros rat était assis par terre et humait l'air avec intérêt. Quelques miettes du gâteau de Loti tombées sur le plancher l'avaient attiré hors de son trou. Il était si comique, tout semblable à un nain ou un gnome, à moustache grise, que Sarah demeura interdite. Hésitant, il la regardait de ses yeux brillants, comme s'il lui posait une question. « Après tout, pensa-t-elle, c'est bien dur d'être un rat. Personne ne vous aime. À votre approche, les gens s'enfuient et crient. Oh, l'horrible bête! Je n'aimerais pas à épouvanter ainsi mes semblables et qu'on s'écriât « Oh, l'horrible Sarah !» Qu'on me tendit des pièges en m'attirant par des morceaux appétissants. Oh, combien plus agréable est la vie d'un moineau! Mais personne n'a demandé à ce rat s'il voulait être un rat. Personne ne lui a dit « Préférez-vous être moineau ?» Sarah était restée si immobile que le rat s'était enhardi. Sans doute, il avait encore très peur. Mais peut-être, comme le moineau, son cœur lui avait-il persuadé qu'elle n'était pas un être de proie. Et puis, il était affamé. Sa femme et sa nombreuse progéniture l'attendaient dans un trou du mur, et il avait tant de peine à les nourrir. Il avait laissé ses petits pleurant à chaudes larmes. Ainsi se sentait-il prêt à affronter les plus grands dangers pour se procurer même quelques miettes. « Avance donc !» murmura Sarah. « Rassure-toi, je ne suis pas un piège à rats. » À la Bastille, autrefois, les prisonniers et les rats vivaient en bonne intelligence. Si nous devenions des amis, toi et moi. Par quel sortilège les animaux comprenaient-ils les choses, je ne saurais l'expliquer, mais il est certain qu'ils les comprennent. Il existe peut-être une sorte de langage, qui ne s'exprime pas par des mots et que tous les êtres saisissent. Quoi qu'il en fût, dès ce moment, le rat sentit, bien qu'il ne fût qu'un rat, qu'il était en sûreté. Que cette jeune créature, assise sur un tabouret, ne bondirait pas et ne l'épouvanterait pas par des cris aigus et terrifiants, qu'elle ne lui jetterait pas des objets lourds qui, s'il ne l'écrasait pas, le forcerait à fuir, clopin-clopant vers son trou. C'était vraiment un très gentil rat et qui ne nourrissait aucune mauvaise intention. Quand Sarah, au moyen de cette langue mystérieuse qui s'exprime sans le secours des mots, lui eut fait comprendre qu'elle ne le détestait pas, il s'avança tout doucement vers les miettes et commença de manger. Et tout en mangeant, il la regardait, comme avaient fait les moineaux, avec une expression si humble que Sarah en fut touchée. Elle resta assise à le regarder, sans faire aucun mouvement. Parmi les miettes, il s'en trouvait une beaucoup plus grosse que les autres, et dont il avait très envie, qui était tombée tout près du tabouret, mais Monsieur le rat était encore trop timide. « Je crois bien ?» pensa Sarah, qu'il veut aller porter ce morceau à sa famille. Si je ne bouge pas, il viendra peut-être le prendre. Elle osait à peine respirer, si vif était l'intérêt qu'elle prenait à cette scène. Le rat avança, raflant encore quelques miettes, puis il s'arrêta, renifla, et jeta un coup d'œil du côté du tabouret. Enfin, se décidant,
il bondit sur le morceau de gâteau avec un élan qui rappelait celui du moineau et, à peine s'en était-il emparé, qu'il fuyait dans la direction du mur, se glissait dans une fente et disparaissait.
« Je savais bien qu'il en avait envie pour ses enfants, » se dit Sarah. « Je crois vraiment que nous pourrons devenir des amis. »
Il y avait déjà une semaine, Ermengarde s'était risquée à monter à la mansarde. Elle y revint un soir, mais dut frapper à plusieurs reprises avant que Sarah ne vînt ouvrir. Le silence était si profond qu'Ermengarde se demanda si Sarah ne s'était pas endormie. Quand, à sa grande surprise, elle l'entendit rire sans bruit et parler d'un ton de voix encourageant. Elle perçut ces mots.
« Allons, prends-le, Melchizedek, et rapporte-le à ta femme. »
Presque aussitôt, Sarah ouvrit la porte et trouva Ermengarde qui se tenait debout sur le seuil intrigué.
« Avec qui donc parliez-vous ?»
Sarah la fit entrer doucement, son visage avait une expression amusée.
« Promettez-moi de ne pas avoir peur, de ne pas crier, ou je ne pourrai pas vous le dire, » répondit-elle.
Ermengarde, un peu troublée, réussit cependant à se dominer. Elle parcourut des yeux la mansarde et ne vit personne. Pourtant, Sarah avait certainement adressé la parole à quelqu'un. Elle pensa à des revenants.
« Est-ce quelque chose qui m'effrayera ? » demanda-t-elle timidement.
« Il y a des personnes qui en ont peur, » répondit Sarah. « J'ai été de celle-ci, mais je n'en suis plus. »«
Était-ce un revenant ?» demanda Ermengarde tremblante.
« Non, » dit Sarah en riant,
« c'était mon rat. »
Ermengarde n'en entendit pas davantage. Prenant son élan, elle sauta au beau milieu du lit et roula autour de ses jambes sa robe de chambre et son châle rouge. Elle ne criait pas, mais haletait de peur.
« Est-il possible ? » dit-elle, respirant à peine, « un rat ?»«
Je pensais bien que vous auriez peur, » dit Sarah.
« Mais vous avez tort. Je l'apprivoise et il me connaît très bien. Il sort de chez lui quand je l'appelle. Voulez-vous le voir ou avez-vous trop peur ?»
Les jours avaient passé. En effet, et comme les restes de la cuisine arrivaient régulièrement, cette étrange amitié s'était développée au point que Sarah avait presque oublié qu'il ne s'agissait que d'un simple rat. Ermengarde continuait cependant à se pelotonner sur le lit, ses jambes repliées sous elle. Mais le calme de Sarah et l'histoire qu'elle lui raconta de sa première entrevue avec Melchizedek finirent par piquer sa curiosité. S'avançant au bord du lit, elle se pencha pour voir Sarah s'agenouiller auprès du trou de Melchizedek.
« Il ne va pas se précipiter hors de son trou et sauter sur le lit. »«
Non, » répondit Sarah,
« il est aussi bien élevé que nous. Et maintenant, regardez. »
Elle se mit à siffloter doucement et répéta plusieurs fois ce manège qui semblait l'absorber complètement. On eût cru qu'elle récitait une formule d'incantation magique. Finalement, une petite tête à favoris gris et aux yeux brillants se montra à l'ouverture. Sarah laissa tomber quelques miettes de pain et Melchizedek s'avança avec précaution pour les manger. Comme il y en avait une plus grosse que les autres, en homme pratique, il l'emporta chez lui.
« Voyez-vous, » dit Sarah, « il apporte à sa femme et à ses enfants. C'est un très bon garçon. Il ne mange que les plus petits morceaux. » Quand il rentre chez lui, j'entends aussitôt sa famille pousser des cris de joie, et sur trois tons différents. Il y a ceux des enfants, celui de Madame Melchizedek, et celui de Melchizedek lui-même.
Ermengarde se mit à rire. « Oh, Sarah, » dit-elle, « comme vous êtes originale, mais aussi bien gentille. »
« Je sais que je suis originale, » avoua Sarah gaiement. « Quant à être gentille, je m'efforce de l'être. »
Elle passa sa petite main brune sur son front, et un peu de mélancolie et de tendresse voilà son regard.
« Papa, » dit-elle, « se moquait toujours de moi, mais j'en étais heureuse. Il aimait les histoires que j'inventais. C'est plus fort que moi, il me faut imaginer des histoires, et si je ne le faisais pas, je crois que je ne pourrais plus vivre. »
Elle s'arrêta et jeta un regard autour de sa chambre.
« Je suis bien sûre, en tout cas, que je ne pourrais pas vivre ici. »
Ermengarde, comme toujours, l'écoutait avec un profond intérêt.
« Les histoires que vous inventez paraissent réelles. Vous parlez de Melchizedek comme d'une personne ordinaire. Mais c'est qu'il en est une, dit Sarah. Il a faim, il a peur comme nous. Il est marié et il a des enfants. Pourquoi n'aurait-il pas une pensée comme nous? Son regard ressemble à celui d'un être humain. Aussi lui ai-je donné un nom. Elle s'assit par terre, dans son attitude favorite, ses bras entourant ses genoux. « D'ailleurs, dit-elle, c'est un rat de la Bastille, venu pour être mon petit compagnon. Il m'est toujours possible de lui apporter un morceau de pain jeté par la cuisinière, et c'est assez pour le faire vivre. » « Continuez-vous à vous imaginer que vous habitez la Bastille ?» demanda Ermengarde vivement. « J'ai bien essayé d'imaginer, répondit Sarah, que c'est un endroit différent. » Mais décidément, la Bastille convient mieux, surtout quand il y fait froid. » À ce moment, Ermengarde faillit sauter à bas du lit, tant elle fut effrayée par un bruit qui se fit entendre. C'était comme deux coups distincts frappés sur le mur. « Qu'est-ce que c'est ? » s'écria-t-elle. Sarah se leva et répondit dramatiquement. « C'est le prisonnier de la cellule voisine. »« Becky ! » dit Ermengarde avec ravissement. « Oui, écoutez, deux coups signifient... « Prisonnier, êtes-vous là ?» Elle frappa trois coups, comme pour répondre « Ceci signifie « Oui, je suis ici et tout va bien. » On entendit quatre coups du côté de Becky. « Et ceci, expliqua Sarah, alors frère d'infortune, dormons en paix. Bonsoir. » La figure d'Ermengarde s'épanouit de plaisir. « Oh Sarah, c'est comme un conte de fées. »« Mais c'est un conte en effet, dit Sarah. Tout est un conte. Votre vie est un conte. » La mienne en est un, et celle de Miss Minchin aussi. » Elle se rassit et elles bavardèrent ensemble, jusqu'à ce qu'Ermengarde se souvint qu'elle-même était un prisonnier échappé de sa cellule et qu'elle ne pouvait passer toute la nuit à la Bastille, mais qu'elle devait descendre tout doucement les escaliers et réintégrer son lit abandonné.